Dans son livre « Ce corps n'était pas le mien », publié en 2020, Béatrice Denez a qualifié sa transition de deuxième naissance. Diplômée de l'École supérieure de journalisme de Lille en 1979, elle a fait une grande carrière en tant que journaliste à la radio, notamment la radio publique française, Radio France. Elle a même occupé le poste de secrétaire générale et de médiatrice des antennes de Radio France. Et depuis sa retraite, elle s'est engagée contre la désinformation, notamment sur les sujets trans. Elle est cofondatrice et coprésidente de l'association Transsanté France, créée en 2020, qui œuvre pour une meilleure prise en charge des personnes transgenres dans le système de santé. Bienvenue, Béatrice, à l'heure où l'arc-en-ciel se lève.
Bonjour, Denis.
Toute une présentation, tout un CV. D'abord, on utilise quels pronoms et quels accords avec toi?
Ah ben, moi, c'est elle.
Elle féminin.
C'est simple.
Bon, ben, je vais commencer d'abord avec cette question. Comment es-tu arrivé à qualifier ta transition de deuxième naissance?
Ah ben, deuxième naissance, pour moi, c'est parce qu'en fait, bon, ben, on a tous notre naissance, j'allais dire, biologique, mais ben, très vite, vers l'âge de 4 ou 5 ans, je me suis rendu compte, pour parler vulgairement, je dirais qu'il y a quelque chose qui foirait en moi. Il y avait un truc qui ne collait pas. Et petit garçon, en fait, je me sentais vraiment petite fille. Et sauf que, ben, évidemment, c'était... moi, je suis né en 56, donc il y a très, 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 très longtemps, la préhistoire.
pas très longtemps avant moi. Hein.
Mais donc, enfin, ça, voilà, ça fait quand même très, très longtemps pour moi. Et puis... c'était l'époque aussi où on ne parlait pas de transidentité. Et pour moi, c'était... voilà, il y avait une erreur de la nature. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et ça a été vraiment, en effet, pour moi, une souffrance terrible. Parce que pendant des années, j'ai essayé de comprendre ce qui m'arrivait. Pourquoi j'étais comme ça. J'avais même fini par croire que c'était, que j'étais un monstre, que c'était une perversion. Et quand j'ai enfin pris conscience... de ce que j'étais, que je n'étais pas toute seule comme ça, qu'ensuite je me suis dit, il va falloir vraiment, c'était ma crise de la cinquantaine, je ne peux pas continuer à vivre dans un corps qui pour moi n'est pas le mien. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, il va vraiment falloir que je fasse ma transition. Bon, je pense qu'on reviendra sur tous les détails. Et lorsque j'ai pris cette décision, que je l'ai enfin, j'ai enfin fait ma transition, bah, j'étais déjà malheureusement bien âgé. C'était au début de la soixantaine. Et pour moi, en effet, après tout ce que j'ai pu vivre, comme je dis souvent, me déguiser tous les jours en homme, ça a été tellement dur. Et le jour où, en effet, et je sais qu'en fait, on est très minoritaire hein, à faire une vaginoplastie, donc, en l'occurrence, à vraiment avoir un corps qui était vraiment le corps que j'aurais tellement voulu avoir à ma naissance biologique. C'est pour ça que pour moi, c'est ma deuxième naissance, mais c'est vraiment, pour moi, c'est une vraie naissance. Alors, pour l'anecdote, alors au départ, quand j'étais opéré, tu l'as dit, hein, je suis journaliste, je voulais vérifier quand même, hein, donc j'ai descendu ma main le long du corps en me disant je vais vérifier que j'ai plus ce petit machin entre les jambes, Mais il y avait tellement de bandages, de compresses que j'ai rien senti, mais alors le jour où tout ça a été retiré dans la salle de bain de ma chambre d'hôpital, j'ai fait un malaise en fait, pour moi c'est un malaise de bonheur. Quand j'ai découvert mon corps, bon, il était assez coloré, hein, parce qu'il y avait des hématomes un peu partout.
C'est ça. En fait, on a eu très mal pour toi. En lisant le livre, j'avoue qu'on reconnaît la journaliste, parce qu'on a eu très mal pour toi. Tu décris
oui,
ta souffrance, c'est vrai. Hein.
Mais c'est vrai que... Bon,
c'était pas facile.
C'était pas facile, mais le bonheur, quand j'ai découvert ce corps...
Et ça aussi, on le vit en te lisant.
Ah, c'est, oui. Voilà, pour moi, voilà, j'étais né à nouveau, et j'avais enfin... ce corps qui m'a manqué toute ma vie, en fait. Donc voilà pourquoi je parle de seconde naissance, en fait.
Mais ça n'a pas été facile. J'aimerais quand même qu'on parle de l'acceptation par la famille. Il y a eu quand même des moments difficiles.
Oui, il y a eu des moments difficiles parce que... notamment, par exemple, quand j'ai eu ma vaginoplastie, on parle, maintenant on ne parle plus de dysphorie, on parle d'incongruence, mais voilà, je suis passé de la dysphorie de genre, finalement, à l'euphorie de genre, un bonheur extrême. Et en effet, comme je te disais, bon, j'ai fait ce petit malaise en découvrant mon nouveau corps. Et puis, il y a aussi cet aspect où, après cette opération, où je me dis, bon, voilà, maintenant, pour moi, je suis enfin moi-même. Et on a envie, finalement, que le monde entier le sache. On a envie que, ben voilà, à la limite, tout le monde. Bon, c'est ridicule, hein, ce que je dis là.
Mais ils ne sont pas toujours prêts à entendre.
Exactement,
Voilà.
exactement. Et dans ma famille, qui pourtant m'a vraiment soutenu, hein, j'ai eu aucun rejet de la part de ma famille. Donc, franchement, j'ai une chance formidable. C'est pas le lot, j'allais dire, de toutes les personnes trans, malheureusement. Mais voilà, j'ai eu un soutien. Mais je pense aussi que j'étais très casse-pied après mon opération, parce que voilà, j'avais voilà envie d'en parler en permanence, etc., etc. Et encore une fois, un bonheur immense. Et puis c'est ce que m'a expliqué la psychologue de l'hôpital qui me suivait. Et je trouve que c'est très bien qu'on puisse avoir ce suivi psychologique, parce que j'ai fait ce qu'elle appelle d'ailleurs, et c'est vrai que ça correspond assez bien, c'est un baby blues, en fait, un peu comme la maman qui vient d'accoucher, qui est tout à son bonheur d'avoir donné la vie. Et puis finalement, c'est un peu le bébé c'est normal, qui est la vedette. La maman, on finit par l'oublier peut-être un petit peu. Elle aussi, elle est tout à son bonheur. Et puis, elle peut avoir l'impression qu'elle est, voilà, qu'elle est peut-être pas abandonnée, mais tous les regards se tournent vers le bébé, et ça se comprend. Donc il y a ces moments de dépression, et moi, je l'ai vraiment
Il y en a
vécu.
eu tout un, parce que si je comprends bien, c'est que toi, tu es arrivé au but là, de la route. C'était là la destination. Je suis maintenant tout à fait femme, des pieds à la tête. Et là, tout à coup, on se rend compte que d'autres, eux, ils doivent apprendre à vivre avec cette nouvelle personne. Et je vais en parler parce que ça t'a amené même à une tentative de suicide que tu décris dans ton livre. Et cette tentative de suicide-là, c'est vraiment triste, ce passage du livre-là.
Oui,
Mais
oui, parce que donc tu veux que j'en parle
un petit peu, oui, si tu veux, oui, vas-y.
là. Bon, c'est pas le meilleur souvenir, c'est sûr, mais voilà. Bon, donc j'étais en plein traitement hormonal aussi, bon, qui perturbe un peu. J'avais fait mon opération. Je venais aussi de faire l'opération de féminisation du visage. Et puis, sur ce, il y a le décès de ma belle-mère, donc la maman de ma femme. Et je m'entendais plutôt bien avec elle. Et c'est là que les membres de la famille, en fait, m'interdisent carrément d'assister à ses obsèques. Pour la bonne et simple raison que une partie de cette famille, donc de ma femme, n'est pas au courant de ma transition, ce qui n'est pas de mon fait, puisque moi, franchement, j'avais vraiment envie que, encore une fois, tout le monde le sache. Et en disant, c'est pas la bonne. Alors, je peux comprendre aussi, hein, c'était peut-être pas forcément la bonne période pour annoncer ma transition à toutes les cousines, etc., etc. Mais en craignant aussi, comme c'était une famille très catholique, en craignant éventuellement des réactions négatives ou autres, et en me disant, non, non, écoute, il vaut mieux pas que tu viennes. Et franchement, ça a été pour moi vraiment un choc terrible, en me disant, je la connais quand même depuis très longtemps, on s'est bien entendu, visiblement elle m'aimait bien. Alors, c'est vrai, il faut être honnête aussi, qu'elle ne savait pas, elle ne connaissait pas ma transition. Moi, je ne l'ai pas vue depuis 6 mois, depuis ma transition, depuis le moment où je n'étais, j'allais dire, que femme, physiquement et dans l'apparence. Et voilà, tout ça, c'était un contexte quand même compliqué, difficile à vivre. Et donc, je me suis retrouvé toute seule chez moi, dans la banlieue parisienne, toute la famille étant partie à Lille. Pour les obsèques dans le nord de la France. Et je ruminais, et puis à un moment donné, je me suis dit, mais ça veut dire que finalement, on ne supporte pas ma condition. Et oui, franchement, là, j'ai vraiment eu envie de tout lâcher. Et tout était prêt, hein, franchement, tout était prêt.
Et heureusement, ça n'a pas eu lieu parce que nous n'aurions pas ce moment magique que toi et moi.
Je peux quand même, pour la petite anecdote,
Oui.
franchement, je vais dire, ceux qui m'ont sauvé, c'est vraiment mes petits-enfants, parce que j'adore, qui étaient beaucoup plus jeunes que maintenant, hein, parce que ça remonte à quelques années. Et en fait, j'avais pris leurs photos pour avoir, j'allais dire, la dernière vision avant de quitter ce monde. Et puis finalement, c'est ça qui m'a fait réagir en me disant, mais est-ce que je peux leur faire ça à eux ? Ouais. Eux, ils n'y peuvent rien, à ce Roger que je peux connaître, en fait. Ils n'y peuvent rien. Et pourquoi je leur ferais de la peine ? Pourquoi ils perdraient, en fait, leur troisième grand-mère, en fait ? Donc je me suis dit, non, finalement, je ne vais pas le faire, mais ça a été vraiment, par exemple, le lendemain, ce qui est extraordinaire, symptomatique, c'est qu'en fait, je n'avais plus de voix. Bon, c'est au mois de juillet, donc on ne peut pas dire que c'est parce que j'avais une angine ni quoi que ce soit. Mais voilà, j'étais complètement abattu. C'était vraiment... c'était terrible. Bon, je me suis relevé. Et aujourd'hui, tout va bien. Hein.
Oui, ben, je fais toujours cette réflexion, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et c'est là, vrai. J'aimerais parler de la Béatrice de nos jours, qui, forte de son passé de journaliste dans les faits et dans les faits, dans les réalités, la science et tout, tu as pris un autre tournant. Oui, retraité de Radio France, mais tu es loin d'être retraité. Parle-nous de ce que tu fais présentement. Parce que tu combats la désinformation d'abord.
Ce qui est c'est ça. Tu sais, je suis comme toi, je suis journaliste. Et moi, ce qui m'importe et ce qui m'a toujours importé, c'est en effet la réalité des faits, c'est la vérité. En fait, bon, la vérité, elle peut être un peu diverse, mais voilà, au moins la réalité et la vérification des faits. Pour moi, c'est vraiment important. Et moi, ce qui me répugne, et c'est pour ça d'ailleurs que je voulais créer cette association avec des médecins, avec ce côté scientifique, puisque mon association Transsanté France, qui est vraiment la seule association nationale française qui mélange aussi bien, en effet, des médecins, des paramédicaux, des universitaires, des juristes, mais aussi, d'une manière paritaire, des personnes trans, binaires ou non-binaires, des familles aussi, des proches, et des associations qui nous ont rejointes. En fait, pour nous, ce qui est important, c'est justement de combattre toutes ces contre-vérités qu'on entend, et qui fonctionne d'ailleurs vachement bien en France, hein, parce que quand on voit, ils ont trouvé d'ailleurs, tous les transphobes ont trouvé un bon moyen, c'est de s'attaquer aux enfants qui sont en questionnement, donc aux enfants qui sont peut-être trans d'ailleurs, avec des contre-vérités quand on entend, mais c'est d'ailleurs, on a entendu exactement les mêmes choses au moment de l'élection de Trump, c'est par exemple que les enfants subissent des ablations de testicules, des ablations de pénis.
Ce qui est faux.
Ce qui est complètement faux, mais c'est aberrant. Il n'y a même d'ailleurs aucun pays qui le fait. Mais ce qui est dingue, et ça, moi, ça me met en rage en tant que journaliste, c'est qu'en plus, des confrères, des consoeurs peuvent laisser passer des choses pareilles. Alors, quand c'est des journaux d'extrême droite, j'allais dire, ça ne m'étonne pas particulièrement, mais par exemple, un journal en France comme l'Express, que je trouve vraiment très complaisant avec... d'ailleurs, je leur ai déjà signalé plusieurs fois, complaisant avec toutes ces informations qui sont des infox, en fait, qui sont vraiment des fausses informations, en disant, voilà, les enfants ont fait des ablations de seins. Alors déjà, il faudrait que les enfants aient des seins. Les ablations de pénis et autres. Eh ben non, mais sauf que les gens qui ne connaissent rien aux transidentités, ils sont majoritaires. Et quand ils lisent ça, ils disent, ah, mais c'est des monstres. D'abord, les médecins sont des monstres, et puis... Les trans, c'est vraiment des monstres d'accepter ce genre de truc. Bah ouais, sauf que ça n'existe pas. Mais ça fait peur et on vérifie pas les infos. Et puis comme ça, bah c'est aussi le truc des réseaux sociaux. On va colporter en disant, mais t'as vu ce qu'ils font aux enfants.
Les réseaux sociaux n'ont aucune obligation au fait, à la vérité, exactement, à la contre-vérification. Exactement. Nous, oui. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je trouve très important de le dire. Là, comme journaliste, c'est pas vrai qu'on a à donner les deux côtés, les fameux deux côtés de la médaille, parce qu'il y a souvent un côté qui est basé sur rien.
Totalement. Ben, un exemple, dernièrement, ben, la première maire M-A-I-R-E trans en France, Marico, quand elle a sorti son livre, a été invitée à une grande émission de télévision publique. Et pour parler de son livre, ce qui est logique et ce qui était intéressant, évoquer en effet la transidentité, les transidentités dans une émission grand public, je trouvais ça super. Mais voilà, il a fallu que l'animatrice invite tout ce qu'il y a de pire comme transphobe en France. Dora Mouto, qui a écrit aussi un livre qui est vraiment d'une force incroyable contre les trans, avec là aussi plein de contre-vérités. Et alors, on se dit, bah oui, c'était pour équilibrer. Bah oui, sauf que tous ces propos ont été vraiment des propos violents, anti-trans. Donc non, on n'est pas là pour... On ne peut pas équilibrer. C'est, encore une fois, ce qu'on répète, c'est que l'homosexualité, les transidentités, ça n'est pas une opinion. C'est une réalité, on vit ce que l'on ressent, Et on ne peut pas faire un débat pour ou contre les transidentités, comme on ne ferait pas pour ou contre, là, on n'imaginerait plus aujourd'hui, un débat pour ou contre l'homosexualité ou pour ou contre le racisme. Enfin, voilà, c'est des choses qui ne peuvent pas exister.
Tout à fait. On sent la vigueur et la rigueur toujours en toi, Béatrice Denès. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission aujourd'hui.
Merci, Denis.